France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, journaliste, éditorialiste et à la tête de la toute nouvelle revue L'Audace, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine et en particulier aujourd'hui sur les débats à l'Assemblée nationale et le jeu politique très risqué d'Édouard Philippe. Et puis pour le débat, nous interrogerons l'un des grands thèmes également en discussion à l'Assemblée nationale, le travail. Nous recevrons tout à l'heure l'un des grands spécialistes du sujet, directeur de recherche du CNRS à Sciences Po, au Centre d'études européennes et de politique comparée. Il signe avec Christine Herel « Travailler mieux » aux presses universitaires de France, un livre qui pointe des solutions pour sortir de la souffrance psychique et physique au travail. Le chercheur en sciences sociales Bruno Palier sera tout à l'heure avec nous pour le débat. Mais pour l'instant, place au duel.
Le grand face-à-face, Thomas Snegaroff sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour.
Est-ce que la jeune maman de L'Audace va bien? Natacha, comment va L'Audace?
Mais oui, très
la
beau
revue.
Lancement.
On
précipitez-vous en kiosque et en librairie, parce que vraiment ça part vite.
Allez, on commence à l'étranger, à quelques jours. Ce sera lundi du premier anniversaire de la chute de Bachar al-Assad en Syrie. Et au micro de France Inter cette semaine, des Syriens témoignent.
C'était un bonheur qu'on ne peut pas décrire. Ce bonheur, on ne peut le vivre qu'une seule fois dans sa vie. Chaque année, à chaque anniversaire, on sera de plus en plus heureux.
Son mari opine.
Nous avions un seul rêve, ne pas mourir avant de venir sur cette place précisément. Et grâce à Dieu, nous y sommes.
Gilles, est-ce que le miracle syrien a lieu? Peut-il avoir lieu? Et puis, question subsidiaire, est-ce que le président al-Shara est en capacité de reconstruire la nation syrienne dans toutes ses composantes?
C'est intéressant quand on entend ces réactions. Si on se replace il y a un an, on voit à la fois l'intense soulagement qu'il y a eu et très vite, presque immédiatement, l'inquiétude devant l'immensité des défis que la Syrie devait affronter. Et un an après, je crois qu'on peut dire que la transition est fragile, très fragile, parce que la violence qui était massive avant reste présente. On a vu il y a peu les affrontements avec les Kurdes, alors même qu'un accord, un compromis historique avait été trouvé il y a quelques mois qui s'est enlisé. Mais avant les Kurdes, il y a eu des affrontements avec les Alaouites qui ont beaucoup soutenu le régime de Bachar, avec les Druzes. Il y a de l'extérieur les incursions israéliennes au sud-ouest du Liban, une reconstitution au nord-est de l'État islamique. Donc la violence reste très présente. Mais en plus d'une violence qui reste très présente, la misère est très pesante. Se sont ajoutés deux événements récents, les réfugiés et les déplacés par millions qu'il faut gérer, qu'il faut accueillir, et une sécheresse inédite dans un pays très agricole. Donc on a une transition qui est difficile et qui, par nature, ne peut être qu'insatisfaisante. Elle est insatisfaisante du côté syrien, parce que l'assise du président est de plus en plus étroite. Il a notamment, ce qui peut être aussi une bonne nouvelle, été abandonné par les plus radicaux des islamistes, parce que les pas vers la démocratie sont comptés. Il y a une assemblée du peuple, une assemblée transitoire qui a été élue il y a quelques semaines, au terme d'un processus qui n'est pas un vrai processus électoral. Et la situation est insatisfaisante aussi, ou en tout cas pas complètement satisfaisante, du côté des Occidentaux, parce qu'il y a une suspension des sanctions, mais c'est une suspension qui est partielle, ce n'est qu'une suspension et pas une annulation, donc il y a un problème à la fois d'ampleur et de visibilité pour qu'il y ait de nouveaux investissements en Syrie. L'aide internationale est insuffisante. Bref, je pense qu'il faut continuer avec exigence, avec lucidité, mais continuer à soutenir cette transition, parce que c'est un enjeu pour nous, c'est un enjeu pour la région, mais surtout pour une autre raison, c'est qu'il n'y a pas d'autre option. C'est soit la réussite de cette transition, soit un chaos plus important encore, et ça ne peut prendre que du temps.
Et on se souvient qu'il y a quelques semaines, al-Shara était à la Maison-Blanche, reçu par le président Donald Trump, qui, lui, évoquait la fin des sanctions et ce pari, al-Shara, qu'il voulait faire.
Oui, les sanctions ont été vraiment levées sur Al-Shara, elles n'ont pas complètement été levées sur la Syrie.
Oui. Natacha, Al-Shara, on ne savait pas vraiment qui il était, enfin, on craignait plutôt une réislamisation du pays, on s'inquiétait de... Alors, personne n'a regretté Bachar al-Assad, hein, mais de ce que produirait ce vide après ce régime terrible et sanguinaire et totalitaire qu'était le régime Assad, surtout sous Bachar, davantage encore que sous Hafez. Qu'en est-il un an après? Est-ce qu'on doit être rassuré, même si on doit être prudent?
Je pense qu'on n'est pas encore sorti totalement de l'incertitude, bien entendu, et qu'il faut prendre les éléments avec une immense prudence. Les dangers qui guettent actuellement, c'est d'une part la nature véritable d'Al-Shara, bien sûr, mais c'est le risque d'explosion du pays sous l'effet des violences entre communautés. Et puis, c'est les difficultés qu'évoquait Gilles et qui doivent être inscrites dans un cadre géopolitique qui est extrêmement complexe. Pourquoi ? Parce que la visite d'Al-Shara à Washington, qui s'est faite d'ailleurs, en fait, sous l'égide de Mohamed Ben Salman, qui a joué les intermédiaires entre Trump et Al-Shara, elle a permis, c'est vrai, d'avancer, mais d'avancer à la manière dont Trump décide qu'on avance. C'est-à-dire qu'il y a là, clairement, la volonté de la part des Américains d'obtenir l'implantation d'une base militaire. Pour l'instant, c'est démenti par Damas, mais c'est évidemment le but de Donald Trump. On voit que Al-Shara joue en fait un numéro de funambule, puisqu'il est allé également maintenir, il avait visité un mois avant Moscou, il était allé maintenir ses liens avec Vladimir Poutine. Pourquoi ? Parce que justement, la Russie a deux bases en Syrie et que donc c'était un donnant-donnant, il s'agissait de demander à Vladimir Poutine la reprise des patrouilles militaires pour apaiser, pour mettre fin aux violences, donc en échange du maintien des bases. Mais tout ça s'inscrit dans un contexte où la Syrie est en permanence pilonnée par Israël. C'est-à-dire que là encore, il y a quelques jours, lundi, une frappe israélienne dans le sud a fait 13 morts. Mmh. Et on voit à quel point Donald Trump est d'une ambiguïté total entre justement son besoin de soutenir Al-Shara pour obtenir des avancées et sa volonté de ne pas sanctionner Benjamin Netanyahou. L'occupation de la zone démilitarisée dans le Golan de la part d'Israël est une fois de plus une violation du droit international, mais surtout rend plus difficile l'apaisement qui, normalement, devrait succéder à la chute de Bachar el-Assad. Donc, on est dans une situation éminemment inflammable, dans laquelle Al-Shara, dont on ne sait pas ce qu'il a en tête, essaye de naviguer à vue au milieu de tout cela.
Le Golan annexé en 1981 par Israël. Gilles ?
Exactement.
Oui, un mot sur ce cadre géopolitique qu'évoquait Natacha. La Syrie est un enjeu pour les Occidentaux, à la fois de maintenir l'Iran dans une forme d'isolement, pour contenir la Russie qui avait des liens privilégiés. Et si Al-Shara est allé en Russie, il y a des dimensions sécuritaires, mais il y a une autre dimension qui est la dimension alimentaire. Je parlais de la famine liée à la sécheresse, alors que la Syrie produisait du blé. Maintenant, elle importe du blé russe, et c'est aussi pour ça qu'Al-Shara est allé en Russie. Et puis, l'idée qu'il faut réussir à embarquer la Syrie dans un futur accord de paix de la région autour de... Alors, nous pouvons l'espérer d'une solution à deux États, mais que c'était aussi un des enjeux de la visite d'Al-Shara à Washington.
Et puis si l'histoire de la Syrie vous intéresse, vous pouvez réécouter notre conversation avec Mathieu Rey, Syrie, anatomie d'un siècle tourmenté sur l'appli Radio France.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Madame la ministre, ce qui traverse Lyon 2 n'est ni un épiphénomène, ni une suite d'événements anarchiques, mais l'illustration d'une faillite idéologique, d'une université qui dysfonctionne, révélateur d'un antisémitisme décomplexé qui gangrène nombre de nos universités en totale contradiction avec nos valeurs républicaines.
La députée Caroline Yadan qui réagissait cette semaine à l'Assemblée nationale suite à la suspension du professeur d'histoire médiévale de l'université Lyon 2, Julien Théry, accusé d'avoir publié publié sur son compte Facebook une liste de personnalités juives, des personnalités qualifiées dans ce post Facebook de sionistes génocidaires à boycotter. A aussi été exhumé un visuel plus ancien, reprenant selon l'université des clichés antisémites. A noter que Julien Théry, l'historien, produit depuis 2019 également une émission d'histoire sur la chaîne Le Média, une chaîne qui défend une ligne éditoriale qu'on peut qualifier de gauche radicale, proche de la France insoumise. Natacha, que révèle selon vous cette histoire ?
Cette histoire n'est qu'un épisode de plus dans la fracturation du monde universitaire et l'utilisation que peuvent en faire derrière les politiques, ce qui me semble particulièrement dangereux et gênant. En effet, dans les faits, Julien Théry, professeur d'histoire, réagissait sur sa page Facebook à une tribune de personnalités dans le Figaro qui demandait à Emmanuel Macron de ne pas reconnaître l'État de Palestine sans avoir exigé comme préalable d'abord la libération de tous les otages et ensuite la démilitarisation totale et la disparition du Hamas. C'était cette tribune.
C'est la même liste. Voilà. Qui a été ensuite diffusé avec un autre titre.
Ces personnalités, il y avait Charlotte Gainsbourg, l'acteur Philippe Torreton, etc. Bon, donc la réaction est donc de faire un post de la part de ce professeur à l'université sur la liste de génocidaires, ce qui déjà est assez effarant. Je veux dire, cette terminologie n'est pas celle d'un professeur d'université, c'est celle d'un militant gauchiste de bas niveau. Il faut bien dire que Lyon 2 avait déjà vu un épisode, il faut le rappeler, il y a quelques semaines, puisqu'on se souvient que le professeur de géographie cette fois-ci, Fabrice Balanche, avait été accusé par des étudiants d'être à la fois pro-Assad et sioniste, et donc ces étudiants cagoulés étaient entrés dans son cours. Il en avait parlé dans les médias, et du coup la présidente de l'université, furieuse, qu'il ait dépeint Lyon 2 comme un repère d'islamo-gauchiste, avait réagi, etc. Donc on voit qu'on a là, en fait, une perte totale de repères de la part d'un lieu, l'université, qui est censé être un lieu de production du savoir. Qu'il y ait toujours eu à l'université du gauchisme, des tensions, voire des tentations totalitaires de la part de certains étudiants, ça c'est un classique de l'université. Mais il y a là, à mon avis, je vais le dire un peu brutalement, une baisse de niveau dans la qualité des débats qui me semble assez inquiétante. Donc il faudrait sans doute sortir de cette hystérie, faire en sorte justement d'arrêter l'instrumentalisation de ces débats sur le conflit israélo-palestinien, parce que ça devient consternant. Mais ça, je crois que le premier sujet, c'est celui de à la fois de la conscience de la part des professeurs de leur statut et du rappel de ce qu'est une université et de son rôle.
Sur la question de l'instrumentalisation, il y a aussi l'instrumentalisation de l'antisémitisme. Et si je dis cela, c'est que cette semaine a aussi été marquée par un sondage du Cevipof sur le sujet, qui a été très contesté sur sa méthodologie, sur ce qu'il impliquait, qui a été même retiré, ce qui est assez rare. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, Gilles ?
En fait, c'est un vaste programme sur la perception de l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur qui a été lancé par le ministère de la Recherche et de l'enseignement supérieur, dont une partie était une enquête quantitative auprès d'une part des étudiants et d'autre part des personnels de l'enseignement supérieur. Et c'est sur cette dernière dimension, sur l'enquête sur les personnels, que cette enquête qui était donc commandité par le ministère, piloté par deux chercheurs du Cevipof et administré par un institut de sondage qui était l'IFOP. Ça a donné lieu à de vastes protestations, vous avez raison, du monde de la recherche, de l'Association française de sciences politiques, de quelques autres, à des recours juridiques de certains syndicats, de la Ligue des droits de l'homme devant le Conseil d'État, et à l'opposition des présidents d'université. C'est la raison pour laquelle ce sondage a été interrompu en cours de route, parce que dès lors qu'il n'était pas diffusé au personnel enseignant, il n'avait plus d'objet. Donc voilà pour le cadrage des faits. Si on s'attarde maintenant sur les arguments qui ont été utilisés. Alors, il y en a eu de très nombreux. Il y en avait qui traitaient du questionnaire. Les questions qui étaient posées pour essayer de cerner l'antisémitisme, et y compris des questions qui pouvaient être posées sur le conflit israélo-palestinien qu'on évoquait tout à l'heure. Il y avait une deuxième série de critiques qui était sur les renseignements signalétiques qui étaient demandés aux personnes qui étaient interrogées et qui choisissaient d'y répondre, puisque c'était évidemment facultatif, avec deux inquiétudes. La première était que les questions qui étaient posées, d'appartenance partisane ou de religion, étaient illégitimes, ou que, à partir de ces données, on pouvait aboutir à un fichage des personnels. Et puis, il y a une troisième critique qui est celle que vous évoquiez, qui est ce risque d'instrumentalisation dans le climat que Natacha évoquait tout à l'heure. Il me semble qu'aucune de ces critiques ne tient réellement la route. Sur le questionnaire, il reprend pour l'essentiel des questions qui ont été posées précédemment par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, pour le comité consultatif des droits de l'homme. Et il reprend ces questions-là pour une raison simple, c'est que l'idée est de pouvoir comparer les résultats nationaux à ceux de,
et les questions, c'était,
du monde enseignant. Ben, c'est des questions sur des préjugés antisémites.
Voilà, sur des clichés. Est-ce que c'est tout à fait vrai, tout à fait faux?
Voilà,
les questions qu'on pose aux gens.
Extrêmement classiques. Les renseignements signalétiques, il n'y a pas une enquête dans laquelle ces questions-là ne sont pas posées. Dans toutes les enquêtes, sur tous les sujets.
C'est-à-dire qu'on demande aux gens pour qui vous votez, quel âge avez-vous.
Mais pour quelle raison on demande ça? C'est que ce sont des éléments pour pouvoir interpréter les résultats. De la même manière que toutes les questions qu'on évoquait sur le fond, c'est une analyse multidimensionnelle qu'il faut faire, et c'est pour ça que toutes ces questions-là sont posées. Donc, les renseignements signalétiques, c'est dans toutes les enquêtes. Le fichage, toutes ces données sont anonymisées, elles sont anonymisées par l'Institut, ce sont les règles, et donc les chercheurs n'ont et moins encore le ministère, n'ont ces données-là. Enfin, le risque d'instrumentalisation, alors on mesure le climat, tout ça vient après l'enquête sur les musulmans dont on a beaucoup parlé, ça vient après l'annulation du colloque au Collège de France, après l'histoire de Lyon 2, et donc il y a cette idée de il faut calmer le jeu, sans doute faut-il calmer le jeu. Moi, ce qui me semble, c'est qu'il ne faut pas reculer devant la connaissance, pas seulement pour la connaissance, parce qu'après, c'est un moyen pour lutter contre les phénomènes.
Parce que vous pensez-vous qu'on a voulu casser le thermomètre pour ne pas voir la fièvre ?
Je pense que l'interruption du sondage était inévitable, pour les raisons d'abord scientifiques. On mesure à quel point le climat est détestable, à quel point la défiance entre universitaires, avec le ministère lui-même, à quel point cette défiance est forte, mais je pense qu'il ne faut pas reculer devant la connaissance pour pouvoir lutter contre les phénomènes.
Je voudrais juste préciser une chose, il ne s'agit pas, absolument pas, de dire qu'il n'est pas possible de critiquer, de débattre. Par exemple, sur cette affaire de tribune, on peut débattre de l'opportunité de cette tribune, on peut débattre de la question, nous avons, Gilles et moi, évoqué ici, dans cette émission, le fait que chacun, nous considérions que c'était une bonne idée de reconnaître l'État de Palestine. Voilà, donc ça peut être débattu. Le problème, c'est d'employer le terme génocidaire. Là aussi, on peut débattre de la question de savoir s'il y a un génocide. Mais génocidaire à boycotter, vous voyez qu'on sort de l'intelligence et de la réflexion et du débat démocratique.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
J'ai beaucoup de respect pour le président de la République qui m'a nommé Premier ministre, mais je ne lui dois rien. Il est venu me chercher, je trouve qu'il s'honorerait à trouver la façon la plus digne pour lui et pour les institutions de régler cette crise.
Édouard Philippe, c'était le 16 octobre dernier, il y a un siècle, lorsqu'on l'interrogeait sur France Télévisions sur ses propos demandant, vous vous souvenez peut-être, la démission programmée du président de la République pour apaiser les débats. Cette semaine, à nouveau, Édouard Philippe a fait entendre sa différence avec ce qu'on appelle encore le bloc central. Il a en effet exhorté ses députés Horizon à ne pas voter le budget de la Sécu. Natacha, que cherche-t-il? Quel impact pour son avenir à lui en tant que candidat à la présidentielle? Et puis, quel impact aussi tout de même, pardon, c'est un peu secondaire, mais peut-être, pour le budget de la Sécu?
Alors, je pense que dans la tête d'Édouard Philippe, je n'y suis pas, mais j'ai tendance à penser que la première question, quel impact sur sa candidature présidentielle, est le premier moteur de ses prises de position, mais peut-être ai-je mauvais esprit. Toujours est-il que ce qu'on remarque, c'est qu'en effet, on a vu fleurir des questionnements cette semaine. Édouard Philippe serait-il devenu un agent du chaos? En tout cas, de la part de quelqu'un qui adopte la posture de la respectabilité, le voir à ce point
contester, mettre en difficulté son propre camp au point de risquer donc, on va dire, un échec sur le budget qui pourrait aboutir derrière à un blocage politique, voire à une dissolution, cela peut être déroutant. Il me semble qu'il y a plusieurs éléments qui doivent être pris en compte pour analyser cette position d'Édouard Philippe. Le premier étant sa légère baisse tendancielle dans les sondages d'opinion, qui font qu'en fait, Édouard Philippe fait partie de ces gens qui ont besoin de se détacher du macronisme. Et sans doute d'autant plus que, malgré tout, il ne parvient pas à faire oublier qu'il a été Premier ministre d'Emmanuel Macron et qu'il a pris des décisions qui ne sont pas restées comme des décisions particulièrement subtile et qui aurait favorisé le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. On pense aux 80 km/h, on pense à la taxe carbone, etc. Et surtout, l'âge pivot qui a torpillé la réforme de retraite à point du premier quinquennat. Le deuxième élément, c'est qu'il est candidat à la mairie du Havre et qu'il est en difficulté. Enfin, en difficulté, n'exagérons rien, mais disons que il avait été élu au premier tour en 2014, il avait été mis en ballotage en 2020, et que là, le risque pour lui, c'est une triangulaire qui rendrait les choses beaucoup plus difficiles, sachant qu'il a conditionné sa candidature à la présidentielle à sa victoire au Havre, avec cette idée que une victoire démocratique permet de pousser une candidature, la légitimité d'une candidature.
Et ça, c'est en mars.
Et le dernier point qui me semble peut-être le plus important, c'est qu'on a l'impression qu'il y a à droite, aujourd'hui, une analyse qui consiste à dire que les chefs d'entreprise sont de plus en plus inquiets par la situation économique, ils se font entendre dans des tribunes, et que donc il s'agirait d'être en phase avec eux, plus qu'en phase avec un camp politique. Cela dit, la façon dont se positionne Édouard Philippe me semble problématique, puisque moi, ce que j'en retiens, c'est que, d'abord, les chefs d'entreprise ont très peur du chaos politique, au moins autant que de l'augmentation des taxes. Et deuxième point, essayer de faire du Churchill, du sang et des larmes, et se retrouver à plus faire du Milley, peut être un petit peu problématique.
Churchill ou Milley, et puis plus sérieusement peut-être, est-ce qu'Édouard Philippe fait un pari un poil risqué?
Il y a un an, Édouard Philippe avait une force, c'est qu'il était largement en tête des candidats de son espace politique dans les sondages, et il était face à un dilemme de savoir quelle était la bonne distance à trouver par rapport à Emmanuel Macron.
Ce qui n'était pas facile.
Un an après, il a répondu à cette question du dilemme, la distance a été une rupture. Il y a eu la petite rupture qui était les positions sur l'Algérie et la dénonciation des accords de 68. On verra peut-être dans les prochains jours la moyenne rupture qui est celle du budget de la sécurité sociale. Et puis il y a eu la grande rupture, la rupture fondatrice, qui est celle de l'appel à la démission anticipée d'Emmanuel Macron. Dans le même temps, il y a eu non pas un écroulement dans les sondages, mais une érosion, et une érosion nette. Je vous donne juste un chiffre. Il y a un an, dans une enquête qui est réalisée à peu près tous les mois, qui interroge la satisfaction ou l'insatisfaction que provoquerait l'élection d'un certain nombre de personnalités à la présidence de la République. 1% des Français, il y a un an, qui disaient qu'ils seraient satisfaits de l'élection d'Édouard Philippe. On était à 24% le mois dernier, donc érosion. Et puis, surtout symboliquement, pour la première fois, il aurait été battu par Jordan Bardella dans un sondage dont j'ai dit, par ailleurs, toutes les limites, mais ça pèse dans le climat. La question, c'est est-ce qu'il y a un lien entre cette rupture et cette baisse dans les sondages? La concomitance ne veut pas nécessairement dire corrélation. Toujours est-il que nous sommes à l'heure des doutes. L'heure des doutes sur son positionnement, là, le sang et les larmes, dans le contexte actuel. Doute sur sa stratégie. Il va être candidat au Havre et ce n'est pas facile. Et puis, cette stratégie de « c'est la force qui va faire l'union » que j'évoquais il y a quelques semaines, ça marche quand vous êtes fort, ça marche moins bien quand vous l'êtes moins. Je conclue En fait, il y a deux choses. D'un point de vue presque psychologique, moi, je suis fasciné par les relations et l'évolution des relations entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Pour moi, la phrase la plus significative dans la rupture, c'était pas seulement l'appel à la démission, c'était « je ne lui dois rien ».
Ouais, il est venu me chercher.
Extrêmement symptomatique. Mmh. Alors, il est venu me chercher. Édouard Philippe, pour le coup, était à deux doigts d'abandonner la politique. Il est devenu Premier ministre. Donc, évidemment, y compris pour les Français, ça va être compliqué de se dire « il ne lui doit rien ». Mais je pense que ça veut dire « je l'ai servi, il m'a viré, nous sommes quittes ». Bon, et donc, voilà. Et puis, dernier point sur le plan politique, je dis c'est l'heure des doutes pour Édouard Philippe, mais quand même, entre Jordan Bardella d'un côté et Jean-Luc Mélenchon de l'autre, pour cet immense espace entre les deux, c'est l'heure des doutes généralisés, parce que c'est un peu le bal des éclopés.
Et quand même, dernière petite question pour les gens qui nous écoutent aussi, c'est quoi les doutes sur le PLFSS, sur le budget de la Sécurité sociale? C'est quoi le calendrier? Qu'est-ce qu'on doit avoir en tête là dans les jours qui viennent?
Le calendrier, c'est qu'il va y avoir un vote sur la première partie, un vote sur les... et puis un vote surtout très important au début de semaine prochaine, et que on ne sait pas si ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale va être adopté. S'il n'est pas adopté, s'il poursuit sa course, s'il retourne au Sénat, s'il y a une interruption, s'il va être voté ce qu'on a eu pour le budget de l'État l'année dernière, c'est-à-dire une loi spéciale qui permet au moins dans un premier temps d'avoir les moyens de faire fonctionner la Sécurité sociale, on retourne dans une zone de turbulence à très court terme.
Les députés n'ont donc pas fini de travailler ? Habile transition, parce qu'on va beaucoup parler du travail et de sa souffrance. Je ne sais pas s'ils souffrent, les députés, mais nous, à les suivre, parfois, on souffre un peu. Place au débat du grand face-à-face.
Le grand face-à-face, le débat.
Bonjour Bruno Palier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur en sciences sociales au CNRS, au sein du Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po. Vous êtes l'un de nos grands spécialistes du travail. Et après les débats sur la réforme des retraites, qui a largement mis à jour en réalité l'état du travail dans notre pays, vous avez entrepris une grande enquête sur le sujet, 600 pages, les meilleurs chercheurs de France s'y sont mis. Le constat a été fait, c'est très bien, mais les solutions, c'est parfois un peu mieux également. Résultat, ce livre plus court, ce livre collectif toujours, publié aux presses universitaires de France, son titre « Travailler mieux », vous le dirigez avec Christine Hérel, et nous allons en détailler avec Natacha et Gilles le riche contenu. Mais pour l'enraciner dans l'actualité la plus chaude de la semaine, je vous propose d'écouter Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Elle était mardi matin sur France Inter.
Il faut un budget, mais pas à n'importe quel prix. Un budget qui impose une violente cure d'austérité aux travailleurs et aux travailleuses et qui nous impose une année noire en 2026, ça serait non seulement un budget injuste et violent pour les travailleurs et travailleuses, mais un budget mauvais pour l'économie avec un effet récessif très important, parce que des travailleurs et des travailleuses dont le pouvoir d'achat baisse, ça veut dire moins de consommation.
Alors prendre le travail sur la question, comme on l'a entendu ici, du pouvoir d'achat, c'est en même temps l'enjeu du budget, mais plus largement, souvent on considère que la solution au mal-être au travail, c'est d'abord les salaires. Comment est-ce que vous entendez cela? Est-ce que pour vous, c'est la première et peut-être la meilleure réponse à la crise du travail en France?
C'est sans doute la première, mais pas la meilleure, ou en tout cas pas la seule. Effectivement, on peut constater que pour beaucoup de Français, il y a le sentiment de stagnation de leurs revenus, alors qu'il y a eu l'inflation, qu'elle est encore un peu présente. Donc, il y a le sentiment de ne pas pouvoir tout simplement répondre à toutes les contraintes budgétaires auxquelles chaque ménage est confronté, l'énergie, les loyers, la nourriture, les transports, les habits pour les enfants, enfin, vous voyez ce genre de choses. Nous, ce qu'on montre les dépenses contraintes, exactement. Ce qu'on montre dans l'ouvrage, c'est que si on fait référence à ce qu'on appelle un salaire vital, c'est-à-dire combien il faut avoir pour pouvoir faire juste face à ces dépenses contraintes, eh bien en France, pour une personne seule, c'est 1600 et quelques euros. Le SMIC à temps plein, il est à 1400, donc 17% des Français sont au SMIC. Beaucoup de Françaises, plus que de Françaises, sont très inférieures au SMIC parce qu'ils travaillent, elles travaillent à temps partiel. Donc on a beaucoup de gens qui n'ont pas ces moyens-là. Donc évidemment, c'est un enjeu majeur et on le voit bien dans les sondages, c'est une des premières préoccupations des Français. Cela dit, la rémunération, ça ne suffit pas. Et en tout cas, la rémunération, c'est déjà aussi autre chose. Oui. C'est la reconnaissance de l'effort fait, de la contribution du salarié à l'activité économique de son entreprise, de son service public. Et là, il y a aussi le sentiment d'insatisfaction de ne pas se voir reconnu en matière de salaire. Mais nous, ce qu'on montre...
Alors du coup, la question, c'est est-ce qu'en augmentant les salaires, on répond, alors bien sûr, à l'urgence du budget contraint, ça c'est une évidence,
on répond aussi à ce signe de reconnaissance, mais est-ce que ça suffit ?
Non, ça suffit pas, parce que ce qui est en jeu, en fait, c'est un sentiment diffus, que, je dirais pour les deux tiers des Français, d'une insatisfaction au travail, insatisfaction qui est liée au sentiment de ne pas être reconnu pour sa contribution, donc c'est le salaire, mais c'est bien d'autres choses aussi, hein. Et puis le sentiment de ne pas être écouté. Moi, je pense que c'est les deux mots-clés qui traduisent de façon un peu abstraite, mais le malaise des Français, de beaucoup de Français au travail, c'est l'absence d'écoute, l'absence de reconnaissance. Et là, il y a beaucoup d'autres choses à faire pour résoudre ces difficultés-là.
Et vous avez un terme qui m'a frappé dans votre livre. On a beaucoup parlé de grandes démissions à un moment donné. C'est les gens qui partaient même, souvenez-vous, sur les réseaux sociaux, vous voyez aux États-Unis, mais en France aussi, des gens qui déchiraient leur contrat de travail en disant « ça ne m'intéresse plus, je veux vivre autrement, être indépendant, etc. » Vous vous dites, il n'y a pas de grande démission, on ne la mesure pas. En revanche, il y a une grande déception. Et ce mot déception, il est intéressant parce que s'il y a déception, c'est qu'il y avait une grande attente.
Exactement.
Alors, c'est quoi l'attente des gens qui auraient été déçus ?
Eh bien, le premier paradoxe par rapport à l'état du débat public sur les Français et le travail, hein, dont on entend plus souvent dire qu'ils sont feignants, tirent au fond, etc., qu'on entend dire qu'ils sont très attachés au travail, c'est que nous, ce qu'on montre, c'est que beaucoup de Français, une très grosse majorité de Français, sont très attachés au travail. C'est-à-dire que pour eux, c'est quelque chose d'important, évidemment pour pouvoir vivre, mais aussi pour définir leur identité professionnelle, pour avoir des opportunités de réaliser des choses, d'être reconnus aussi. Vous le savez bien, dans les conversations courante, la première chose qu'on demande à quelqu'un qu'on rencontre, c'est quoi ton job, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton hobby, qu'est-ce que tu as fait dimanche matin, vous voyez, c'est ça. Et on montre comparativement qu'en France, les gens sont plus attachés au travail qu'ailleurs, tout simplement comment on le fait, on demande c'est quoi ce qui est important dans votre vie, et les Français vont toujours mettre le travail dans les trois premiers items, ce qui n'est pas le cas, par exemple, aux États-Unis, mais même en Allemagne, c'est pas tout à fait aussi important.
Et c'est vrai que quand on pose une question anodine, tu fais quoi dans la vie, voilà. La réponse, c'est on parle travail immédiatement, alors qu'on pourrait dire, Gilles pourrait dire du tennis. Gilles, qui fait beaucoup de tennis dans sa vie. Question.
Le premier tome, c'était « Que sait-on ?» Le second aurait pu s'appeler « Que fait-on ?» Et je trouve ça c'est très intéressant et très, moi je trouve ça très positif que des chercheurs s'attellent à cette question-là, c'est-à-dire prennent le risque collectivement de travailler à des propositions. Et vous le faites autour d'un angle principal, c'est qu'on centre trop le débat sur le travail autour de la quantité et pas assez autour de la qualité. C'est un peu le fil rouge des propositions que vous formulez. Je voudrais commencer par vous interroger sur un aspect. Vous avez dit tout à l'heure qu'une des déceptions était que les salariés avaient le sentiment de ne pas être suffisamment écoutés. Et un des éléments très structurants des propositions, c'est l'idée qu'il faut qu'il y ait plus de démocratie dans l'entreprise sur des choses qui peuvent apparaître comme des petites choses, mais qui sont en réalité déterminantes, par exemple les horaires, ou sur les grandes décisions, la participation des salariés au conseil d'administration. Donc, est-ce que vous pouvez résumer les principales propositions qui sont dans votre rapport, sur quoi peut-il y avoir plus de démocratie et comment ? Est-ce que c'est directement par les salariés ? Est-ce que c'est par leurs représentants ?
Alors, il faut évidemment mettre les propositions au regard du constat et du diagnostic. Oui. Et en France, les décisions sont caractérisées par le fait d'être prises par très peu de personnes, en fait. Quelques dirigeants d'entreprise ou dirigeants de service. Et puis après, c'est censé descendre. C'est-à-dire, tout le monde est censé baisser la tête et appliquer. Donc, on parle de verticalité du système de décision.
Plus forte en France qu'ailleurs.
Plus forte en France qu'ailleurs. Ça, c'est assez simple à illustrer. Hein. Dans les conseils d'administration des entreprises, de plus de 2000 salariés en Allemagne, il y a 50% des représentants du personnel, des salariés, des syndiqués qui siègent. Voilà, donc on n'en est pas du tout là en France. Dans les entreprises nordiques, c'est plus que ça. Et c'est plus systématique que ça. Donc on voit bien là une décision stratégique partagée. Et que je sache, le capitalisme nordique ou allemand ne s'est pas effondré du fait de la participation des décisions aux décisions. À l'inverse, en fait, c'est des décisions beaucoup plus légitimes, beaucoup plus soutenues par les salariés. C'est ce qu'on tire de la chose. Donc face à ce sentiment d'une prise de décision verticale, La deuxième caractéristique, c'est la distance de, ce, de cette prise de décision. C'est que là, c'est très haut. Hein, vous savez, c'est toujours dans les étages supérieurs des sièges sociaux que c'est pris. Mais c'est aussi très loin. C'est-à-dire qu'on a montré dans le premier ouvrage que là où les décisions sont prises, où on prescrit le travail des autres, ça se fait géographiquement à un endroit différent de là où on produit. Et donc, bah, y a une absence de connaissance, en fait, des réalités de la... de la production, de ce qu'on appelle le travail réel. Et donc, par rapport à ça, l'idée, hein, c'est de rapprocher les décisions de la réalité du travail. Et une façon de la rapprocher, c'est d'abord de favoriser le management de proximité. Donc ça, c'est la première réponse à votre question. Hein. C'est ce management de la proximité, c'est les cadres intermédiaires, au plus proche des unités, qu'on a fait disparaître. Alors, pas complètement, mais c'est là-dessus qu'on a fait des économies, quand on s'est attaché au cadre et au management. Et de stimuler des pratiques d'écoute, de participation qui soient importantes. Deuxième proposition, c'est que les salariés, dans chaque unité de production, dans chaque service, puissent avoir du temps consacré à parler de son travail, c'est-à-dire relever les difficultés et faire des propositions. Parce que moi, c'est quelque chose que je voudrais dire. Toutes les expérimentations qui ont été faites, et il y en a beaucoup à la RATP, chez Renault, etc., qui donnent la parole aux travailleurs, c'est va y avoir des moments où on va constater que des choses ont été mal conçues, on leur a donné des consignes qui ne sont pas bien adaptées à la réalité de la production, mais très rapidement, ils font des propositions pour que ça se passe mieux, pour qu'on produise mieux. Ils ne font pas les propositions de tout arrêter, de tout foutre en l'air. Ils font des propositions pour que ça se passe mieux. C'est ça l'intérêt de l'écoute. Voilà, ça c'est une des dimensions très importantes.
Vous parlez de l'entreprise, j'ai l'impression que vous parlez de la démocratie française. Mais... les élites déconnectées, l'idée que c'est les citoyens, pardon, oui. les salariés qui doivent faire remonter des choses, qu'on doit les écouter, qu'on doit inventer des nouvelles gouvernances.
Enfin,
c'est fou, vous parlez de l'entreprise.
Moi, je suis chercheur en sciences politiques et je suis convaincu d'une chose, c'est que la crise démocratique dans laquelle on se trouve, elle a partie liée avec ce malaise au travail, cette absence d'écoute et de reconnaissance. Mais regardez les deux termes. Je ne suis pas écouté, je ne suis pas reconnu. Vous ne pensez pas que les Français qui ont manifesté contre la réforme des retraites n'ont pas le sentiment de ne pas avoir été écoutés, ne pas avoir été reconnus et l'ont manifesté dans la rue d'abord et puis aux élections de juin 2024. Moi, je pense qu'il y a un parallèle. Ça n'explique pas tout, mais il y a aussi quelque chose qui se passe ici, effectivement.
On va y revenir, mais Natacha.
Vous évoquez dans votre travail le problème du choix de la stratégie du low cost. Mmh. C'est-à-dire le fait qu'on s'est obsédé d'abord sur le coût du travail, avec l'idée qu'il fallait systématiquement axer sur la compétitivité, et qu'en fait on a été tiré vers le bas, à la fois en matière de qualité de vie au travail, de qualité des droits des salariés, mais en même temps, cette stratégie du low cost, c'est aussi celle de la diminution de la qualité des produits qui sont faits. C'est-à-dire que ne vous semble-t-il pas qu'il y a un lien fondamental entre ce que vous pointez dans la qualité de vie des travailleurs, la reconnaissance qui est la leur, et les choix macroéconomiques qui ont été faits, c'est-à-dire le fait... mais tout simplement de ne plus produire sur le sol français et donc de se retrouver avec des emplois qui sont des emplois de service, des emplois d'aide à la personne qui n'ont pas de statut, le poids d'une grande distribution qui, justement, s'appuie sur ce modèle du low cost. Et dans ces cas-là, est-ce que finalement ce n'est pas en reliant les deux problématiques, celle donc de la réindustrialisation et celle de la qualité du travail, qu'on va pouvoir s'en sortir.
Et en creux, peut-être la question, si on est sur l'industrie, de la fierté aussi de la réalisation de son travail.
Bien sûr, donc Gilles Finkelstein disait bien que la qualité, c'est au cœur de nos réflexions et que, en fait, l'approche qui a dominé à la fois les stratégies économiques et les stratégies d'entreprise, c'est une approche quantitative. Mmh. Et le premier point, c'est que depuis 40 ans, quand on parle du travail, et c'est pas souvent, on y associe systématiquement la notion de coût. Le problème de la France serait le coût du travail. On est trop cher pour pouvoir embaucher, trop cher pour pouvoir exporter. Et donc, ça a tourné à l'obsession. Et les politiques économiques, bah, c'est principalement des exonérations de cotisations sociales, des subventions pour essayer de compenser ce coût du travail qui serait la cause de tous nos malheurs. Et puis, les stratégies des entreprises, quand même. Hein, essayer d'aller produire ailleurs où c'est moins cher, les délocalisations. On délocalise beaucoup plus en France qu'ailleurs. Hein, 25 000 emplois perdus par an par cette obsession de c'est trop cher ici, il faut le faire ailleurs. c'est la sous-traitance, hein, qui est en partie sous-traitée pour que ça coûte moins cher. C'est aussi le problème des seniors. Si on les garde pas, c'est parce que les entreprises les considèrent comme trop chers. Mais c'est aussi l'explication de l'intensification du travail. Il faut toujours faire plus pour une seule personne en une heure. Et donc, vous voyez cette problématique-là, c'est combien tu me coûtes, combien tu produis, et ça n'est pas qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu produis, est-ce qu'il y a de la qualité dans ce que tu fais. Et moi, je veux bien dire qu'on est trop cher, mais on est trop cher pour ce qu'on fait. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il faut baisser notre coût pour garder le même niveau de qualité, ou est-ce qu'il ne faut pas essayer de se différencier par de la qualité. Alors, évidemment, on connaît ça pour le luxe, hein, on voit bien. Mais moi, ce que je voudrais vous donner, c'est d'autres exemples par rapport à ce que disait Natacha Polony. Est-ce qu'on est capable de faire la différence entre une personne qui s'occupe des personnes âgées dépendantes de façon qualitative ou pas? Bah oui, c'est le scandale Orpea. Quand vous êtes dans la quête de gains de productivité quantitatif, vous réduisez le nombre de personnes qui aident et qui s'occupent des personnes âgées dépendantes, vous réduisez les portions, vous rognez sur tous les coûts, catastrophe. Les personnes. Donc là, vous voyez que la qualité est essentielle, et j'utilise le mot essentiel bien évidemment à dessein, puisqu'il y a toutes ces professions essentielles qui sont si mal reconnues, mais la notion de qualité est essentielle, y compris pour les services à domicile, les services à la personne. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut miser maintenant sur la qualité, et bien évidemment, je pense que c'était votre question, la qualité du service, la qualité du produit ne peut pas se faire sans la qualité de l'environnement de travail, sans la qualité des conditions de travail, et sans la qualification des salariés. Hein. Tout ça va de pair, forme un modèle, et c'est la proposition que je fais dans l'ouvrage, c'est d'essayer d'avoir une stratégie de la qualité plutôt qu'une stratégie du low cost.
Et de la quantité donc.
Et de la quantité.
Gilles.
Oui, je disais tout à l'heure, ce qui était intéressant, c'est que vous formuliez des propositions, ce que tous les chercheurs ne font pas, et vous allez même dans le livre jusqu'à confronter ces propositions aux réactions d'un certain nombre de chefs d'entreprise, et parfois d'ailleurs avec des réactions qui sont très positives. Je pense à Pascal Demurger, le président de la MAIF. La semaine prochaine, il y a, en plus du vote sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale qu'évoquait Thomas, il y a la première séance de la conférence sociale sur les retraites et sur le travail. Est-ce que vous êtes aussi allé porter ces propositions auprès des syndicats, à la fois d'employeurs et de salariés, et quels ont été, le cas échéant, leur accueil?
Alors, donc, il y avait hier le lancement de la conférence emploi-travail-retraite, et un de nos auteurs phares, Laurent Capelletti, y intervient effectivement pour rappeler que le mal-travail ou les difficultés au travail, ça coûte aux entreprises. Hein, lui, il a fait le calcul que l'absentéisme, le turnover, les maladies professionnelles, ça a un coût, des coûts induits de l'ordre de 20 000 euros par salarié. C'est-à-dire que quand quelqu'un est malade, il faut soit le remplacer, soit redistribuer les tâches à tout le monde. Le turnover, vous faites appel à de l'intérim, vous ne savez pas comment vous organiser. L'absentéisme, donc, c'est des problématiques. Et encore une fois, l'interprétation, est-ce que c'est... Vous savez, on a eu un débat récemment sur l'augmentation des arrêts maladie. Est-ce que c'est parce que les Français sont tirés au flanc, ou est-ce que c'est la traduction de difficultés? Moi, je sais que les données sur les raisons des arrêts maladie, c'est une augmentation des troubles musculo-squelettiques, ce qui est reconnu par tout le monde comme étant une pathologie issue du monde professionnel. Donc, on a bien une difficulté qui se traduit dans des coûts, y compris pour l'entreprise. Donc, on a essayé de le dire. Donc, les syndicats nous entendent et étaient très heureux de que c'est tenu du travail, parce que c'était un instrument de travail. Discutent de nos propositions, ne sont pas complètement toujours d'accord, mais ça c'est le débat, c'est intéressant. Du côté des entreprises, c'est plus compliqué.
Alors, c'est plus compliqué, mais en même temps, c'est assez malin de leur parler de coûts.
Exactement, nous ce qu'on essaye de faire, et donc vous citiez Pascal Demurger, on a eu aussi, donc grâce à Anne Roddy en fait, du Monde, qui a soumis nos propositions à certains dirigeants d'entreprise, par exemple le PDG d'Adeco dit quand vous proposez de limiter, de ne jamais rémunérer à moins de 3 heures, nous on est déjà à 4 ou 5 heures, on fait jamais en boîte d'intérim. Donc vous voyez, il y a des entrepreneurs qui considèrent que le pari de la qualité, le pari de l'écoute, le pari de décision auquel les salariés participent, c'est un pari gagnant. Donc la MAIF, c'est bien connu, mais il y en a beaucoup d'autres qui font ça. Simplement, on a un problème, je dirais, qui s'incarne dans le comportement du MEDEF. Je vais le dire très simplement. C'est-à-dire que la question du travail, elle commence à être entendue. Parce qu'il y a des secteurs en tension, donc on voit bien qu'il y a des gens, on a du mal à les attirer et à les garder. Parce qu'il y a eu le Covid et donc le télétravail, il faut parler organisation du travail. Parce qu'il y a eu, évidemment, la mobilisation sur la réforme des retraites et beaucoup de gens ont dit « moi, je ne me vois pas devoir travailler 2 ans de plus dans ces conditions ». Et donc, la question du travail arrive. Et je vais vous citer, le gouvernement l'a entendu, puisqu'ils ont lancé les Assises du Travail en 2023, ils ont lancé le pacte pour le pouvoir, pour la qualité de vie au travail en 2024, il y a eu le conclave sur les retraites qui parlait de pénibilité en 2025, et là, on lance la conférence Travail, Emploi, Retraite.
Et l'ancienne ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, avait lu votre livre, vous avez reçu pour en parler.
Que s'est-il passé à chaque fois? À chaque fois, ça a échoué. Et tout le monde est d'accord pour dire que ça a échoué parce que le MEDEF a dit « hors de question ». Le MEDEF a dit « c'est pas ça le problème c'est le coût du travail ». Le MEDEF a dit « le problème c'est qu'on ne peut pas garder les seniors dans les conditions financières que vous nous imposez ». Et la preuve en est, c'est que le MEDEF a refusé tout simplement de participer à cette conférence travail, emploi et retraite que le gouvernement vient de lancer. Donc on est là dans un problème, moi, que je qualifie de dénégation. Un certain nombre de dirigeants, et je ne dis pas tous, mais de dirigeants d'entreprise, dénient le fait qu'il y ait des difficultés au travail pour beaucoup de Français, peut-être pas tous, mais pour beaucoup de Français, dénient le fait que ces difficultés sont en partie liées à des problèmes d'organisation du travail et de management, donc ils les remettent en cause eux, et ils préfèrent dire quoi ? Les Français sont tiroflants. Ils préfèrent dire, vous savez, moi je l'ai entendu souvent, vous savez, toutes vos enquêtes là, c'est du déclaratif et les Français aiment se plaindre. Voilà moi ce que j'entends parfois de la part de certains dirigeants d'entreprise. Et je pense que quand on est dans cette dénégation, eh bien, vous savez ce qui se passe. Hein, la crise enfle et elle débouche sur des manifestations que l'on ne souhaite pas. Par exemple, le vote pour des partis qui, eux, disent « moi je défends les Français qui travaillent », vous savez.
Ben on va en écouter un, Jordan Bardella, président du Rassemblement National.
Tous les Français que j'ai rencontrés, tous les Français que je rencontre chaque jour, qui se lèvent tôt, qui font des efforts, qui ont le sentiment que l'heure de travail n'est pas rémunérée à la juste valeur. Cette France-là, cette France humble, cette France silencieuse, cette France qui ne casse pas, cette France qui ne manifeste pas, eh bien, elle a le sentiment de porter sur ses épaules les efforts de tout le monde.
C'est ça que vous nous dites là ?
Moi, ce que je dis, c'est que la question du travail a du mal à trouver un débouché politique. Vous le savez, il y a François Ruffin qui en a fait son créneau. Vous avez cité Astrid Panosyan-Bouvet, qui vraiment connaissait bien ces sujets-là et ne les daignait pas. Mais par contre, bah, c'est ce que je vous ai dit, pour, en tout cas, les dirigeants du MEDEF sont dans la dénégation. Un certain nombre de...
Mais là, Jordan Bardella, il écoute les travailleurs.
Voilà, mais les partis politiques ne se sont pas positionnés sur les questions de conditions de travail, de reconnaissance au travail, etc., mis à part, encore une fois, Ruffin. Et là, indirectement, Bardella le fait en disant « moi, je parle et je défends ceux qui travaillent dur.
Eh oui.
Et c'est pour ça que je m'oppose à la réforme des retraites. C'est pour ça que je m'oppose aux élites qui vous méprisent et ne vous écoutent pas, typiquement, qui font une réforme des retraites, quoi que vous pensiez. Et ils ont aussi une façon d'instrumentaliser en disant, et qui s'opposent aussi aux feignants qui profiteraient de l'État-providence, qui n'est absolument pas prouvé. Mais donc, on a un débouché politique qui est instrumentalisé par l'extrême droite. Mais voilà, est-ce que les autres partis vont réagir autrement? Nous, bien évidemment, les propositions qu'on fait, c'est pour dire il y a un problème, mais il y a des solutions. Ces solutions, elles passent en partie par, évidemment, de la négociation sociale, de l'adaptation dans l'entreprise, mais elles passent aussi par la mise en condition collective de cette stratégie de la qualité. Et pour ça, il y a besoin de grandes conventions collectives, mais il y a besoin aussi de régulation et de législation.
Sous-entendu, saisissez-vous tous du travail parce que certains le feront mieux que vous. Natacha.
Mieux, en tout cas, ils le font.
Ils le font.
Vous écrivez, il est nécessaire d'organiser une montée en gamme des biens et des services produits en France pour conquérir une nouvelle place dans l'économie mondiale, mais aussi pour conquérir les consommateurs français eux-mêmes. Est-ce que pendant trop longtemps, il n'y a pas eu justement cette idée que le travail devait servir à l'exportation ? C'est-à-dire qu'on essayait de se porter vers un modèle d'exportation. Est-ce qu'on n'est pas dans un oubli d'une base ? C'est qu'il y a un marché intérieur et que pour que les gens soient bien au travail, il faut aussi qu'ils puissent eux-mêmes consommer ce qu'ils ont produit et être fiers de ce qu'ils ont produit.
Bruno Palier.
Moi, je pense que c'est vraiment la question fondamentale. fondamentale. Très clairement, et je l'ai montré dans un chapitre que j'avais fait pour un autre ouvrage, l'inspiration de notre stratégie économique, elle vient de l'Allemagne. On ne fait que parler de l'Allemagne dans les années 80, 90, 2000, et donc il faut qu'on soit des exportateurs comme les Allemands. Sauf que on a copié le modèle, mais de façon hémiplégique, c'est-à-dire qu'on a copié la partie modération salariale, la partie libéralisation des secteurs de services autour du monde de la production. Ce qu'on n'a pas su copier, c'était la capacité à produire de la qualité. Et cette capacité à produire de la qualité, elle se fait avec les salariés, donc je le rappelais dans les conseils d'administration, avec beaucoup de formation, avec beaucoup de protection des salariés. Donc ça, on n'a pas su le copier. De l'autre côté, c'est qu'on a, vous le savez, une grande partie des experts qui sont keynésiens en France. On dit, bon, bah, tant qu'il y a de... c'est pas grave qu'il y ait de la dette, parce que ça consommera. Mais on ne s'est pas demandé consommer quoi. Et donc là, on est bien autour de la question de est-ce qu'on est capable de convaincre, y compris les consommateurs français. Et je le répète, on les convaincra par la qualité, par la différenciation, par la qualité. Et encore une fois, ce n'est pas une stratégie de luxe, c'est une stratégie de service de qualité, les services quotidiens, les services à la personne. C'est une stratégie de biens de consommation de qualité. Hein. Contraindre les gens à aller dans le discount parce que leur revenu ne le fait pas, ça ne satisfait personne en fait.
Alors, on évoque depuis 20 minutes avec vous le travail, les conditions du travail, mais on a oublié l'éléphant dans la pièce, l'intelligence artificielle. Tout le monde nous dit que c'est en train de bouleverser complètement tous les rapports au travail, le rapport même hiérarchique aussi à l'autorité. Est-ce que vous arrivez à intégrer l'IA dans votre grille de lecture ?
Alors nous, on a un chapitre sur cette grande transition qui est à l'œuvre, la transition technologique. On a aussi un chapitre sur la transition environnementale, qui sont les deux grands enjeux qui pèsent sur nos économies, mais aussi sur le travail. Du point de vue de l'IA, la question de savoir si l'IA remplacera les emplois, elle a déjà été traitée une cinquantaine de fois dans l'histoire. Vous êtes historien, vous savez bien que les ruptures technologiques... Ouais. Il y a 10 ans, on disait la même chose.
Mais enfin là. Rendez-vous dans 10 ans.
Le point qu'il est nécessaire de faire, c'est que savoir si une machine remplace un homme est le fruit d'une décision. D'une décision managériale, d'une décision stratégique. Et cette décision, elle est prise à l'aune d'un certain nombre de critères et qui ne sont pas que des critères. Est-ce que c'est faisable ? Oui, sans doute, c'est faisable. Mais est-ce que j'ai intérêt à le faire ? Par exemple, si vous regardez les supermarchés, vous apercevez qu'ils ne prennent pas tous la décision de remplacer des caissières par des machines. Ça dépend de la marque, ça dépend de la stratégie de connexion avec les clients qu'ils ont envie d'avoir, etc. Donc vous voyez, c'est une décision et ça ne se fait pas automatiquement. Cette décision-là, nous, ce qu'on dit dans l'ouvrage, c'est qu'il faut l'accompagner, il faut l'apprendre pour que l'utilisation de l'IA qui doit évidemment advenir, qui va advenir, elle se fasse au bénéfice de l'amélioration des conditions de travail, au bénéfice des salariés, au bénéfice de l'entreprise et non pas contre les salariés.
À quelles conditions peut-elle l'être ?
Elle l'est à la condition que vous réfléchissez bien à la portée du travail effectué par les personnes, à quoi ça sert, à qui ça sert, et vous dites qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire que moi, en fait, je n'apporte pas de valeur ajoutée. Et qu'est-ce que l'intelligence artificielle n'apportera pas dans la relation client, dans la chose. Je vais prendre l'exemple qui est très souvent pris, celle des avocats. Donc on dit que les avocats sont très menacés. Ils sont menacés sur quoi ? Sur une capacité de lecture du Dalloz, c'est-à-dire des recueils de jurisprudence. Ça, effectivement, une machine sait le faire et faire la synthèse des différentes jurisprudences. En revanche, décider de la stratégie de positionnement du cabinet d'avocats, décider de la rhétorique qu'on va employer au moment face au tribunal, décider du deal qu'on va passer pour les avocats d'affaires, ça une machine ne le fera jamais, et donc c'est ce genre de choses qui est intéressant de garder pour les humains en s'appuyant sur la machine, pour autant qu'elle ne vise pas à être utilisée pour contrôler le travail, c'est-à-dire lui dire ce qu'il faut faire et vérifier qu'on l'a bien fait. Parce que trop souvent, la machine et l'intelligence artificielle est utilisée comme ça, c'est-à-dire par quelques managers méfiants, distants et méfiants, et qui mettent des machines pour à la fois définir le travail des salariés. Donc on peut penser au casque dans les entrepôts, mais on peut penser aussi à la tablette. Je reviens aux EHPAD. La tablette dit, vous avez 15 minutes pour faire la toilette ici, vous avez 20 minutes...
Ou les livreurs.
Et voilà, les livreurs. Et là, on est dans l'inversion, c'est-à-dire que l'homme est soumis à la machine, alors que le but, c'est que la machine soit au service à la fois de la qualité des prestations et du travail humain.
Mais on mesure bien en vous écoutant que les décisions sont des choix politique.
Exactement.
Est-ce qu'il faut repolitiser le travail et pas uniquement n'y voir qu'un élément de survie ou qu'un élément de coût. Il s'agit de qualité et donc de politique. Merci beaucoup Bruno Merci. Palier d'avoir été avec nous. Votre livre « Travailler mieux » est aux presses universitaires de France. Merci Gilles et merci Natacha Laudas. Et toujours en kiosque, merci à l'équipe du Grand Face à Face, Mathilde Clatte à la préparation de l'émission, Marie Merrier à sa réalisation. Aujourd'hui, Thomas Allard à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour Mafia, anatomie d'une pieuvre avec Clotilde Champérache, une conversation que vous pouvez déjà écouter en podcast sur l'appli Radio France.